Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver à Canal Académie, sur l'antenne de l'Institut de France. Et je reçois Michaël Mangot, docteur en économie, enseignant à l'ESSEC, qui s'est donc donné précisément pour domaine d'expertise la finance comportementale. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir aborder ce sujet sur lequel vous avez déjà beaucoup œuvré. Et je rappelle que vous avez été le Benjamin des lauréats du prix Turgot, du meilleur livre d'économie financière en 2006, pour l'ouvrage que vous avez fait paraître chez Duno, Psychologie de l'investisseur et des marchés financiers. Et vous avez à ce jour publié 3 ouvrages.
C'est vrai.
Lesquels ?
Les comportements en bourse, qui était paru chez Galino il y a au moins 5 ou 6 ans déjà. Puis l'ouvrage que vous avez cité, Psychologie de l'investisseur et des marchés financiers chez Duno. Et enfin, 50 petites expériences sur la psychologie des épargnants et des investisseurs, toujours chez Duno.
Alors, on va essayer de voir quel est le concept de la finance comportementale et sur lequel on va donc revenir très largement. Et avant, je voudrais quand même rappeler que vous appartenez à cette nouvelle génération d'économistes au rang de laquelle se distinguent, entre autres, Nicolas Bouzou, Pierre Sabatier, Philippe Dessertines, Jean-Pierre Petit, qui est donc des trentenaires ou des quadras, qui, sans complexe, viennent frapper à la porte de l'établissement en toute légitimité, car en fait, ce seront bien vous qui seront en responsabilité dans une vingtaine d'années lorsque nos concitoyens pourront valider les options qui ont été prises à la sortie de cette crise qu'on espère en passe de s'achever. Alors, on va commencer par une première question, de rappeler à nos auditeurs ce qu'est la finance comportementale.
Eh bien, la finance comportementale est une partie de la finance qui a une trentaine d'années déjà de vécu derrière elle et qui, au contraire du reste de la finance, ne postule pas que les investisseurs, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels, sont complètement rationnels lorsqu'ils prennent leurs décisions sur les marchés financiers. Au contraire, la finance comportementale ne part d'aucun postulat de ce genre et essaye de regarder, de tester les comportements à partir d'expériences en laboratoire, par exemple, ou de questionnaires, ou même en regardant leurs transactions réelles, par exemple en bénéficiant des relevés de transactions chez des courtiers en ligne, ou même les relevés de transactions des professionnels, pour voir si effectivement ils sont rationnels. C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'intéressent à toute l'information qui a de la valeur ajoutée sur les marchés pour prendre leurs décisions ? Est-ce qu'ils utilisent des raisonnements qui sont bien formels pour prendre leurs décisions ? Et est-ce que leur objectif est finalement bien arrêté, c'est-à-dire d'optimiser leur performance tout en contrôlant leurs risques ? Donc c'est une partie de la finance qui est très empirique, qui n'est pas du tout hypothético-déductive et qui, au contraire, essaye de voir comment les gens se comportent de manière réelle. L'intérêt de cette démarche est de, si c'est le cas, de voir comment améliorer le comportement des investisseurs si d'aventure il n'est pas complètement rationnel ni complètement performant.
Alors la finance comportementale a été consacrée en quelque sorte par l'obtention du prix Nobel d'économie. En quelle année ?
C'était en 2002, c'était un prix Nobel qui avait été décerné à Daniel Kahneman. Donc c'était un prix Nobel d'économie, alors que Daniel Kahneman est psychologue. C'est un psychologue israélien qui a émigré aux États-Unis, qui officie depuis maintenant une trentaine, voire une quarantaine d'années, à l'université de Princeton. Et il a obtenu son prix Nobel en 2002.
Ce qui montre quand même l'imprégnation de la psychologie dans l'analyse.
Exactement. Mais d'ailleurs, la finance comportementale n'est rien d'autre que l'application de la psychologie comportementale et cognitive au sens large aux décisions de la finance.
Voilà donc pour la théorie, voilà donc pour le concept. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc le prix que vous avez obtenu en 2006 était déjà dans la lignée de cette réflexion. Je rappelle donc que vous êtes actuellement enseignant, particulièrement
oui.
À l'ESSEC.
Je suis enseignant à l'ESSEC et à côté de ça, je suis consultant maintenant pour des banques privées, des gestionnaires d'actifs sur le comportement des investisseurs au sens large.
Alors on peut rappeler votre âge ?
31 ans.
D'accord. Donc, on voit que c'est effectivement un jeune économiste, que le terme n'était pas usurpé, mais vous avez déjà eu plusieurs vies, puisque vous avez été aussi, à un moment donné, sur l'international, et vous avez travaillé, si je me souviens bien, à Singapour.
Exactement. J'étais professeur affilié à l'ESSEC à Singapour pendant une durée de 2 ans, ce qui m'a permis de voir un peu en quoi les comportements des investisseurs asiatiques différaient ou non, ou se rapprochaient des comportements des investisseurs occidentaux. Et il y a des différences.
Et il y a des différences. Et Singapour est une place extrêmement significative.
Pour la finance en Asie, oui. Au même titre que Hong Kong. En dehors de Tokyo, sont les deux principales places en Asie. Oui.
Alors, les principales différences, vous nous disiez ?
Eh bien, les investisseurs asiatiques, en tout cas, je vais restreindre mon analyse à la sphère chinoise, donc c'est-à-dire la Chine continentale, Hong Kong, Singapour et Taïwan, acceptent de prendre beaucoup plus de risques que les investisseurs occidentaux. D'une part, alors que chez les investisseurs occidentaux, la plupart sont dits averses au risque, on a une certaine neutralité au risque chez les investisseurs de type chinois. Donc, c'est le premier point. Donc, ils sont prêts à prendre beaucoup plus de risques.
Ils sont donc joueurs dans l'âme.
En tout cas, ils n'ont pas peur du risque. Joueur, ce serait être favorable au risque, c'est-à-dire vouloir prendre des risques même s'il n'y a pas de récompense à la clé. Là, ce serait vraiment joueur. Là, ils sont au moins neutres au risque. Alors que les Occidentaux ont davantage tendance à fuir le risque quand il se manifeste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on regarde les transactions faites par les investisseurs individuels chinois, on s'aperçoit qu'il y a un taux de rotation des portefeuilles qui est largement supérieur au taux de rotation qu'on observe dans les pays occidentaux, qui est déjà très élevé, qui est déjà incompréhensible pour les théoriciens de la finance. Alors quand on va dans la sphère chinoise, là ça dépasse l'entendement, on arrive à des taux de rotation des portefeuilles de l'ordre de 400% par an. Ça veut dire que chaque année, 4 fois le portefeuille est vendu et racheté. Ce qui est énorme et ce qui traduirait une sorte d'excès de confiance encore supérieur chez les investisseurs chinois que chez les investisseurs occidentaux.
Et chez nous, ça a le taux de rotation
80% à peu près.
80%, ah oui.
Ce qui est déjà élevé. Hein. C'est déjà très élevé, ce qui veut dire que l'investisseur même occidental a déjà la conviction qu'il peut faire mieux que le marché en achetant et vendant des titres à l'aune de ses convictions personnelles, quoi, qui sont souvent très subjectives et très mal étayées.
Alors donc, on revient un tout petit peu en arrière, en rappelant que la théorie financière s'est construite sur l'hypothèse de la rationalité des individus et de l'efficience des marchés, vous le disiez dans votre introduction. Or, l'histoire récente a montré douloureusement qu'il n'en était rien, aussi bien d'ailleurs pour les marchés que pour les individus. Alors, quelles sont les principales leçons, en tout cas s'il n'est pas encore trop tôt, qu'a pu tirer la finance comportementale de la fin brutale de cette exubérance des marchés ?
Eh bien, l'évolution chaotique des marchés depuis les deux dernières années, et même plus largement depuis 10 ans, montre que les marchés ont tendance à évoluer en tendance. Et cette façon d'évoluer en tendance suggère que toute l'information n'est pas prise en compte partiellement dans les cours. Alors que la théorie de l'efficience stipule que normalement, les marchés sont efficients, ce qui voudrait dire que toute l'information est reflétée immédiatement et parfaitement dans les cours boursiers. Or, si vous observez des tendances, ça veut dire que le marché a plutôt tendance à focaliser sur certaines informations et en délaisser d'autres. Et là, typiquement, il semblerait, en tout cas c'est ce que montre le crack sur les marchés actions qui avait suivi cette période d'exubérance des marchés, il semblerait que pendant la période d'exubérance, toutes les informations, et j'entends par là les informations négatives sur le marché immobilier américain, n'avaient pas été prises en compte dans les cours. Et donc l'hypothèse d'un scénario catastrophe n'avait pas été prise en compte dans les cours.
Alors, qu'est-ce qui a changé donc depuis ce moment de définition de la finance comportementale ? Un point essentiel, c'est bien évidemment l'endettement public généralisé dans les pays développés et les déficits publics qui vont avec. Alors, est-ce que cet aspect qui fait dire à un certain nombre d'économistes que l'avenir est particulièrement sombre sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires et aussi sur les marchés financiers, est-ce que ces éléments-là touchent directement la finance comportementale ou non ?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que les événements de la crise financière vont marquer les investisseurs durablement.
C'est ça.
On sait, il y a des études empiriques très bien faites qui ont montré que les investisseurs qui avaient connu des événements économiques graves, donc j'entends par là des cracks ou des périodes d'hyperinflation ou des périodes de récession longues, avaient tendance après à avoir une autre vision des marchés et un autre comportement sur les marchés. Alors, on a toujours l'impression que la mémoire des investisseurs est très courte, c'est-à-dire que ce qui est appris l'est oublié quasiment aussi vite. Sauf que quand on regarde les comportements après des événements graves comme ça, les comportements sont significativement modifiés même plusieurs décennies après la survenue de l'événement. Donc ça a été le cas pour les cohortes, pour les générations qui avaient vécu la crise de 1929. Ça a été le cas pour les générations qui ont connu l'hyperinflation en Allemagne par exemple dans les années 20. Ça a été le cas aussi plus globalement pour les générations qui ont connu des récessions. Après, leur comportement a tendance à prendre en compte le risque de tels événements, d'une réoccurrence de tels événements. Donc le comportement, même si on va voir un retour à la normale progressif, le comportement ne sera pas exactement le même qu'avant la crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'incertitude aujourd'hui qui est liée finalement à la situation difficile des finances publiques et puis au scénario qui est somme toute assez difficile à lire concernant l'inflation, concernant les taux d'intérêt. On peut considérer que cette situation difficile est un plaidoyer pour la diversification. Pour une diversification qui serait une diversification bien faite, c'est-à-dire qui prendra en compte toutes les classes d'actifs et pas seulement...
C'est le premier conseil que vous donnez donc aux investisseurs.
Clairement,
c'est-à-dire qu'il faut diversifier.
Face à l'incertitude, en fait, la diversification est un peu superflue quand vous avez des vues directionnelles très marquées, quand l'environnement est très lisible. Là, vous pouvez, si vous avez beaucoup de confiance sur la conjoncture économique dans les 10 ans à venir, effectivement, il faut être très investi en actions. Mais s'il y a du doute sur différentes variables, les taux de change, les taux d'intérêt, le taux d'inflation, la croissance, Là, effectivement, il faut savoir être diversifié. Donc diversifié aux actions, diversifié aux obligations, diversifié aux matières premières. Pourquoi ? Parce que chacune de ces classes d'actifs aura tendance à bien se comporter dans un environnement de marché particulier et à se comporter moins bien dans un autre. Du coup, en ayant toutes ces classes d'actifs, vous avez un portefeuille qui finalement est à tout risque. C'est une assurance tout risque en fait. C'est simple, imaginons différents scénarios. Imaginons que nous nous acheminons vers une déflation. Dans ce cas-là, ce scénario serait très bon pour les titres à taux fixes, pour les obligations. En revanche, si on s'achemine vers un scénario inflationniste, là, les titres à taux fixes, eux, au contraire, seraient finalement un boulet pour l'épargnant. Et là, ce serait plutôt les actions et encore mieux les matières premières ou l'immobilier qui seraient des bons vecteurs d'investissement.
Mais par contre, vous ne vous prononcez pas, vous, sur le scénario.
Je ne suis pas conjoncturiste. Et je pense que le taux d'erreur des conjoncturistes dans les 10 prochaines années va être très élevé.
Oui, et ça, je crois que c'est la seule certitude qu'on peut avoir. C'est que le risque d'erreur est fort.
Oui, oui, effectivement. Mais bon, si je devais me mouiller sur un scénario, je verrais bien un scénario d'une croissance assez molle avec une inflation très basse. Et dans ce cas-là, les actions des pays développés n'afficheraient pas de forte rentabilité. Et dans ce cas-là, la diversification aux actions des pays émergents serait vraiment un vecteur de croissance, de rentabilité pour l'investisseur. Il ne faut pas oublier vraiment que maintenant, on est dans une situation où il y a deux relais de croissance. D'une part, le monde développé, d'autre part, le monde émergent. Et leurs évolutions économiques commencent à être vraiment décorrélées l'une de l'autre. Et du coup, être investi sur les deux zones permet vraiment de diminuer ses risques et d'être investi sur la croissance des pays émergents.
Donc, division des risques. Et en ce qui concerne donc les marchés obligataires, vous aussi, vous partagez ce pessimisme des économistes, enfin du consensus, ou plutôt, vous voyez, quelque chose d'assez flat ?
Un jour ou l'autre, les taux sur les marchés obligataires devront refléter le risque croissant de défaut des États, donc devraient monter. Et ça, ce sera néfaste pour le détenteur d'obligations à taux fixe, encore une fois. Donc l'investisseur qui peut se prémunir contre ce risque de hausse des taux, c'est l'investisseur qui serait investi soit sur des obligations à très court terme, mais qui proposerait finalement une rentabilité assez faible. Plus on investit à long terme, plus la rentabilité est élevée. Mais autre façon encore plus rusée finalement de se prémunir contre ce risque serait d'avoir en portefeuille des obligations à taux variable ou des obligations indexées sur l'inflation, par exemple. Donc là encore, l'investisseur doit imaginer les différents scénarios possibles et les inclure dans sa réflexion globale pour définir son allocation d'actifs la plus optimale possible dans cet environnement très turbulent.
Donc actuellement, vous êtes consultant, vous êtes en fonction de consultant pour un certain nombre de sociétés financières.
Exactement.
Et vous continuez vos travaux de recherche ou...
Voilà, actuellement, je suis en train de travailler d'arrache-pied sur un quatrième ouvrage, toujours sur la finance comportementale, qui s'intéressera d'une part aux dernières découvertes de la finance comportementale, mais qui utilisera trois angles de vue pour traiter ces découvertes. Ce serait l'angle des différences hommes-femmes.
Oui, alors ça, c'est un premier point. Donc, il semble que les femmes... Vous avez été interviewé sur ce sujet et vous montriez donc à l'époque que les femmes ont un comportement au risque.
Différent de celui des hommes.
Différent de celui des hommes. Et on va dire dans le sens positif.
Il n'y a pas de positif ou de négatif parce qu'en fait tout dépendra de l'environnement de marché. Si l'environnement de marché est positif, c'est la personne qui est la plus favorable au risque qui finalement en tirera le plus les dividendes. Et dans cet environnement-là, ce sont les hommes qui auront tendance à mieux se comporter que les femmes. En revanche, dans un environnement moins optimiste, moins favorable aux actions, ce sont les personnes les plus averses au risque qui auront tendance à afficher les meilleures performances. Et effectivement, on observe que les femmes ont tendance à déployer une aversion au risque, à afficher une aversion au risque supérieure à celle des hommes. Et ça s'explique de trois manières. D'une part, les femmes perçoivent les risques d'une manière plus saillante que les hommes. Dans un environnement donné, les femmes verront plus de risques que les hommes, premièrement. D'autre part, les pertes pour les femmes sont plus douloureuses que pour les hommes. Du coup, effectivement, se positionner sur des actifs risqués qui font courir le risque d'une perte est quelque chose qui a moins de sens pour elles. Et troisièmement, le risque en lui-même est vecteur d'émotions beaucoup plus positives pour l'homme que pour la femme. Encore une fois, je fais des généralités.
C'est la testostérone, peut-être.
Effectivement, ça peut être corrélé aux hormones. Et il est montré que les hommes, face à une situation de risque, ressentent des émotions plus positives, ressentent le risque tel un challenge, alors que les femmes, encore une fois, c'est une généralité, ont tendance à ressentir des émotions plus négatives, à y voir une menace, et ce qui fait naître une émotion de peur.
Donc, vous plaidez pour la parité aussi dans ce domaine, où là où les femmes sont assez peu représentées actuellement chez les traders et... Est-ce qu'il y a...
Ça dépend. Encore une fois, ça dépend des environnements de marché. Et en plus, il y a un effet après de convergence des comportements chez les professionnels. Les comportements sont plus hétérogènes chez les particuliers que chez les professionnels.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en fonction, il y a une parité homme-femme ?
Non, non, pas du tout. Les métiers de la finance sont très masculins.
C'est ça. Donc c'est dans...
Surtout dans les pays occidentaux, parce que si vous allez en Asie, par exemple, chez les banquiers privés, vous avez quasiment une majorité de banquiers privés femmes.
D'accord. Donc, ce qui est une grande différence d'ici chez nous. Donc, c'est dans ce sens que vous plaidez pour une parité. J'ai retrouvé votre article. Hein, c'était chez Capital.
Ah, voilà.
D'accord. Mais il y a quelques années, donc effectivement, on a pu oublier.
Mais sinon, il y a d'autres différences encore.
Deuxième différence.
Entre hommes et femmes, toujours ?
Non, non. Entre hommes et femmes, si vous voulez, oui, encore un peu plus. Non. Puisqu'en fait, vous allez donner de l'appétit à nos auditeurs pour se ruer sur votre prochaine parution.
Entre hommes et femmes, une deuxième différence, c'est l'excès de confiance, qui est très masculin. Ah oui. Donc les hommes ont tendance à surestimer beaucoup plus que les femmes leurs compétences sur les marchés financiers et ailleurs. Mais c'est encore plus le cas dans les activités masculines telles que la finance. Là, il y a un écart entre les performances perçues par les individus mâles et leurs performances réelles qui est très élevé, beaucoup plus élevé que chez les femmes. Ça a comme conséquence d'amener les investisseurs hommes à prendre plus de risques, à faire tourner plus leur portefeuille que ne font les femmes. Et la différence là est très significative.
Mais là, vous avez une cible toute donnée, alors avec les DRH bancaires, pour les conseiller sur leur recrutement et en tout cas ne pas renouveler.
Mais ça dépend, n'oubliez jamais que les marchés montent en général. Et donc dans un marché qui monte en tendance, hein, donc sur longue période, effectivement, il faut être capable de prendre des risques. Donc c'est plutôt ce goût pour le risque des hommes est finalement plutôt positif sur des marchés à risque, comme les marchés actions qui sont des marchés qui montent en général. Mais dans certains environnements baissiers, là, effectivement, un comportement plus prudent serait...
Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un environnement baissier en tendance ?
Enfin, oui, difficile y a pas, à y a dire, pas de réponse. Depuis 10 ans, oui. Mais est-ce que les 10 dernières années sont représentatives des 50 prochaines ? Je ne sais pas.
Alors, vous me disiez donc que dans votre prochaine parution, vous allez traiter de cet aspect spécifique des...
différences hommes-femmes.
Différences hommes-femmes. Et il y avait un autre axe ?
Deux autres axes.
Deux autres axes, oui.
Qui seraient les différences de comportement selon l'âge, donc entre les jeunes
et
les vieux.
Oui, d'accord. Alors après, il y a les jeunes et les vieux, oui.
Et enfin, l'environnement social. On s'est aperçu...
Mais c'est quoi un vieux pour vous qui avez 30 ans ?
Non, c'est quelqu'un... Non, non, je ne mettrai pas de barrière symbolique entre jeunes et vieux. Mais en tout cas, on a commencé à voir qu'il y avait des différences de comportement entre personnes jeunes et personnes un peu plus âgées. Et que c'était dû à l'expérience, mais ça pouvait être aussi dû à des effets d'attention qui sont différents chez les jeunes et chez les personnes âgées. Mais c'est un champ sur lequel on a encore assez peu de données et assez peu de faits. En tout cas, c'est beaucoup moins net que pour les différences hommes-femmes. Mais c'est un champ que j'explore en ce moment. Et d'ici 6 mois, je pense que j'aurai quelque chose à dire dessus.
Vos prochaines parutions, c'est à peu près 6 mois.
C'est à la fin de l'année, oui.
C'est à la fin de l'année.
Et le dernier axe, sur lequel déjà, là, on a un certain nombre de données, c'est l'importance de l'environnement social sur les décisions financières. Les gens qui prennent leurs décisions financières seuls ou en couple ou en groupe ne prennent pas les mêmes décisions. Et ça peut être intéressant pour les investisseurs sur les marchés financiers s'ils veulent, par exemple, rentrer dans un club d'investissement. Il y a un intérêt à rentrer dans les clubs d'investissement, c'est que vous partagez de l'information et théoriquement, à la fin, les décisions du club sont meilleures que les décisions des membres du club, puisque l'information est agrégée et donc on peut imaginer qu'à la fin, le raisonnement est plus dialectique, prend en compte plus d'avis contraires et plus d'informations, et donc devrait permettre une meilleure qualité des décisions. Bien, ce n'est pas forcément ce qu'on observe. Dans les groupes, il y a deux biais très forts. C'est ce qu'on appelle la pensée de groupe. C'est la tendance dans un groupe à aller vers des solutions consensuelles et donc à détériorer la qualité des décisions.
Mmh. C'est une forme de manque de courage du groupe qui refuse l'affrontement.
Exactement, l'affrontement de ses membres. Ils préfèrent aller vers la solution consensuelle qui permettra au groupe de maintenir une forte cohésion. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la polarisation. On s'est aperçu, et ça c'est vraiment, je trouve ça très, très intéressant, c'est que les groupes, lorsqu'ils prennent leurs décisions, la décision finale du groupe ne reflétera pas la moyenne des décisions de ses membres. Par exemple, si on s'intéresse à la prise de risque du groupe, la prise de risque du groupe ne sera pas égale à la moyenne de la prise de risque que les membres du groupe étaient prêts à prendre. Non, il y aura une polarisation dans un sens ou dans l'autre. Si par exemple sur les marchés, les membres du groupe, donc là on peut penser à une équipe de gestion par exemple ou un club d'investissement, étaient favorables au risque, à la fin le groupe sera encore plus favorable au risque que la moyenne de ses membres.
Ah oui, d'accord, donc une sorte d'accélération.
Exactement, dans un sens ou dans l'autre, en fonction déjà du niveau de préférence moyen des membres du groupe. Et ça, ça peut s'expliquer par deux phénomènes, deux mécanismes. D'une part, un mécanisme de partage des informations qui vont toutes dans le même sens, donc d'informations consonantes. Si chacun arrive à la table des discussions du groupe avec ses arguments en faveur d'une prise de risque, par exemple, à la fin de la discussion, le groupe aura sommé toute une série d'arguments en faveur d'une prise de risque et se retrouvera avec une multitude d'arguments et donc sera plus prompt à prendre des risques que la moyenne de ses membres. De la même manière, il y a un autre mécanisme qui rentre en jeu, c'est un effet de représentation de l'individu à l'intérieur du groupe. Pour être très bien perçu à l'intérieur du groupe, il faut aller dans le sens de son groupe, mais un pas en avant du reste du groupe. Et si tout le monde se décale d'un pas, à la fin, le groupe aura beaucoup décalé lui. Et donc, si tout le monde veut prendre un peu plus de risques que ce qu'il était prêt à prendre en vrai, à la fin, le groupe prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de risques.
Oui, alors c'est peut-être un message à destination de nos hommes politiques de ne jamais se déconnecter totalement du groupe, semble-t-il. Mais pas simplement.
Le message, c'est qu'il faut faire attention aux discussions à l'intérieur du groupe. On peut imaginer qu'elles génèrent de la qualité dans les décisions, mais pas forcément. Ce qui génère plus de qualité dans les décisions, c'est la prise en compte de toutes les positions, mais sans discussion. Donc ce serait de faire une moyenne des positions de chacun des membres. Là, vous arriverez à une décision qui serait finalement bien étayée et qui serait une solution finalement qui prendra en compte toutes les informations. Mais la discussion peut empêcher cela.
Ben écoutez, Michael Mangot, on vient de voir avec vous que le champ de la finance comportementale est loin d'avoir été totalement exploré et qu'il y a encore des lignes qui s'ouvrent sur lesquelles vous allez travailler et donc prochainement faire paraître un nouvel ouvrage. Donc ça sera votre quatrième ouvrage. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser quelques questions d'actualité. Très brièvement, enfin en tout cas, la grande question, enfin il y a deux grands sujets, je pense, qui sont devant nous. Inflation ou pas inflation ? Votre avis là-dessus
On croit plutôt croissance morose et faible inflation.
Et faible inflation, premier point. Deuxième point, endettement public et déficit public. On s'approche de la barre fatidique des 90% d'endettement par rapport au PIB pour les pays donc développés. On sait qu'à partir de ce seuil, on commence à rentrer dans une sorte de spirale, comment dirais-je, terrible, puisque à partir de ce moment-là, ça pèse sur
lourdement sur
les perspectives de croissance. Comment vous voyez, du haut de vos 30 ans, de jeune économiste fixé sur l'horizon de l'avenir, comment peut-on sortir de cette impasse ?
En tant que jeune de 31 ans, évidemment, je privilégierais la solution inflationniste, qui est vraiment la moins indolore pour l'économie au sens large et pour la société au sens large, et notamment pour les jeunes. Mais je ne pense pas que ce sera la solution qui sera privilégiée, en tout cas pas en Europe. Où, à cause de l'histoire, il y a un parti pris anti-inflationniste très fort. En revanche, je pense que les États-Unis sont plus prêts à entendre cette solution et à appliquer cette solution-là. Et donc, vraiment, c'est un choix qui est un choix de redistribution intergénérationnelle. Donc là, c'est vraiment un choix important qui va conditionner énormément le bien-être des générations à venir. Donc, il y a deux solutions qui semblent poindre. Malheureusement, je pense qu'il y en aura une solution européenne, une solution américaine qui seront différentes.
Alors, une dernière question, parce qu'on ne peut pas éviter de poser cette question à un trentenaire, c'est quid le dossier des retraites s'ouvre ? Vous en pensez quoi ? De la retraite par répartition, des débats interdits sur ce sujet ?
Je pense que le levier de l'allongement de la durée des cotisations est le levier le plus pertinent au regard de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc c'est celui qui devrait faire consensus. Malheureusement, il ne fait pas consensus encore.
D'accord, il y a encore des positions dogmatiques. Et vous, qui avez devant vous 40 années encore d'activité professionnelle, comment vous voyez cette échéance des retraites dans 40 ans ? C'est quelque chose qui ne vous parle pas ?
Si, si, ça me parle, mais je pense plutôt à le préparer de manière individuelle que collective.
Voilà. Donc vous êtes plutôt pour une approche capitalisation ?
Par capitalisation, oui.
Enfin, au moins partiellement.
Au moins partiellement, oui. Très clairement.
Voilà, bah écoutez, nous avons fait un grand tour d'horizon sur la finance comportementale. Nous avons reçu avec toujours le même plaisir Michael Mangot, docteur en économie, trentenaire, enseignant à l'ESSEC, Benjamin des lauréats du prix Turgot, et qui terminait son propos sur un aspect un peu malicieux, puisqu'il rappelait que dans une conjoncture extrêmement incertaine, qui va certainement durer, que la seule chose que puisse faire un investisseur lucide, c'est de se maîtriser lui-même, car c'est le seul paramètre sur lequel il peut peser lui-même, et certainement que la finance comportementale peut l'y aider plus que jamais. Voilà donc des leçons, voilà donc des conseils, et le plaisir de vous retrouver prochainement sur notre antenne. Merci à vous, Michael.
Ce sera tout mon plaisir. Merci.